de l'actualité, un peu comme d'habitude, l'actualité donc de ce qui se passe un peu partout, ici et ailleurs. On fera aussi l'actualité de Disons-nous qui sont sortis, donc l'envolée, ce qui se passe notamment dans les prisons. Et après, on vous passera un montage sur les violences policières.
Voilà, N des chaînes, on commence avec un agenda rapidement pour annoncer donc deux rendez-vous qui auront lieu samedi 23 février. Donc on commence par un rendez-vous au Seul Problème, ça se passe donc au Seul Problème 46 rue Consola à 18h. Une discussion autour de la présentation du bulletin « Tant qu'il y aura de l'argent ». Voilà, tant qu'il y aura de l'argent, on présentera sa réflexion sur notre société du fric, une réflexion bâtie pour être partagée avec tous. Voilà, ça aurait pu s'appeler tout ce que vous avez voulu savoir sur le capitalisme et sa crise sans jamais oser le demander. Voilà, 18h samedi au Seul Problème.
Ouais, donc le même jour, le samedi 23 février, au 1 rue Masséna, à la Belle de Mai. Il va y avoir une soirée de soutien à deux personnes qui sont emprisonnées donc, pour financer des mandats pour leur envoyer. Donc il va y avoir des concerts, des projections, des spectacles, un infokiosque, de la bouffe. Donc c'est ouvert à partir de 13h et tout est à prix libre. Donc, et tout l'argent récolté servira à financer des mandats pour les deux personnes incarcérées. Donc... c'est à la caserne, donc dans un squat au 1 rue Masséna à la Belle de Mai. Et du coup, parce que une de ces personnes emprisonnées a été arrêtée pour notamment outrage et rébellion avec violence, j'en profite pour rebondir et vous parler un petit peu de ce que c'est l'outrage et rébellion. Donc d'abord, à savoir qu'on peut être poursuivi séparément pour outrage ou pour rébellion, mais que la plupart du temps, on est accusé des deux. Alors, d'abord, l'outrage, qu'est-ce que c'est ? C'est les paroles, les gestes, les menaces, les écrits ou images non rendus publics. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur cette histoire de public ou pas public. Adressé à une personne investie d'une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect de la fonction dont elle est investie. Alors, la peine encourue, c'est 7 500 euros d'amende, pardon. Et si la personne outragée est de plus dépositaire de l'autorité publique, ce qui est le cas des flics, une peine de 6 mois de prison va s'ajouter à l'amende. Donc en Réunion, les peines sont encore aggravées et peuvent aller quand même jusqu'à 15 000 euros d'amende et 1 an de prison. Donc l'interprétation de la notion d'outrage est plutôt vaste, pour ne pas dire vague. Donc un simple regard jugé narquois ou méprisant, un geste qui exprime le dédain peuvent suffire. Donc inutile de préciser qu'il est donc quasiment impossible de parler avec un keuf de son métier, surtout si on a un point de vue critique sur la police, sans se retrouver illico en garde à vue pour outrage. Alors de plus, la liste des personnes investies d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique est plutôt longue. En plus des flics, on y trouve les juges, les matons, les élus, certains contrôleurs, etc. Donc là, je vais surtout vous parler de l'outrage fait aux flics, mais à savoir qu'on peut être accusé d'outrage dans d'autres cas. Donc le délit d'outrage, quand il est adressé aux flics, a ceci de particulier qu'il est constaté par celui à qui il a été adressé. Donc en quelque sorte, les flics se retrouvent, comme on dit, jugés partis. Alors ça veut dire d'une part qu'il suffit aux flics d'affirmer que vous l'avez traité de connard pour vous retrouver accusé d'outrage. Donc on peut voir notamment sur internet des vidéos ou des enregistrements audio où il y a un mec qui dit « Où sont mes enfants ? Je veux voir mes enfants ». Et là on entend un flic dire « Ouais, il a dit connard de flic, je l'ai entendu ». Et tous les flics autour de confirmer « Ouais, moi aussi j'ai entendu, il a bien dit connard de flic ». Et donc le mec se retrouve au trou pour outrage. Donc voilà, par la suite, pour porter plainte, le flic va juste avoir à se tourner vers ses collègues flics, en général dans le même commissariat. Donc c'est à peu près lui, en tant que victime, qui va fournir au tribunal l'intégralité du dossier d'accusation. Donc ce qui lui donne quand même un sacré avantage et ce qui fait qu'on oublie forcément que l'enquête est censée être à la fois à charge et à décharge. Donc voilà, donc je vais revenir vite fait avant de passer au délit de rébellion, faire la précision là sur cette histoire d'écrit rendu public, parce que c'était assez intéressant, et sur qu'est-ce que ça change. Donc un écrit public, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros un écrit qui a été distribué en nombre et reproduit par un moyen mécanique. Donc si vous recopiez 1000 fois le même tract avec marqué « tel flic est un connard » manuellement, il ne sera pas considéré comme public. Par contre, si vous le photocopiez et que vous le distribuez, c'est un écrit public. Alors qu'est-ce que ça change ? Eh bien ça change que en cas d'écrit public, vous serez accusé d'injure publique et pas d'outrage. Et que, on va le voir, ça fait quand même une sacrée différence en termes de condamnation. Donc la différence au départ, elle se joue sur le fait que le délit d'injure publique est lié à la réglementation sur la presse. Et que donc ça se heurte à ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc pour être condamné, il va falloir que d'une part ces écrits soient considérés comme diffamatoires pour pouvoir donner lieu à une condamnation. Et d'autre part, si vous êtes accusé d'un délit d'injure, vous pouvez invoquer l'excuse de provocation. Et dire que on vous a provoqué, donc si cette réponse est jugée proportionnée à la provocation initiale, vous serez relaxé. Et enfin, l'injure simple est punie d'une amende de 38 euros, ce qui est quand même pas du tout la même chose. Et jusqu'à 750 euros si cette injure a un caractère discriminatoire. Toutefois, si cet écrit public est fait sur Internet, c'est beaucoup plus cher. Donc, à savoir, il faut mieux photocopier des tracts. Voilà, donc après cette parenthèse un peu longue, on va revenir sur la rébellion. Alors qu'est-ce que c'est la rébellion ? Encore une fois, c'est des notions un peu vagues. La rébellion, c'est le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique. Alors qu'est-ce que c'est une résistance violente ? Ben, en fait, ça peut être beaucoup de choses et à la fois surtout pas grand-chose. Il n'est pas du tout nécessaire de porter des coups pour être accusé de rébellion. Barrer le passage à un flic, ça suffit. Et seule une résistance totalement passive, à savoir donc ne pas suivre volontairement un flic, mais se laisser porter sans esquisser le moindre geste, n'est pas considérée comme une rébellion. Donc la rébellion, c'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et en réunion de 1 an de prison à 15 000 euros d'amende. Alors ça peut monter à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende en cas de rébellion armée en réunion, à savoir que... pour la justice, une arme, ça peut être aussi un bâton, une bouteille, une chaussure ou n'importe quoi qui va être considéré comme ayant été utilisé comme une arme. Donc, l'outrage et la rébellion en général, enfin, peuvent aussi être associés à d'autres délits comme l'incitation à l'émeute, les menaces ou les violences volontaires. Donc voilà. Donc après ces petites précisions juridiques, on va passer vite fait à l'usage que les flics font de l'outrage et rébellion. Donc d'après les chiffres officiels du ministère de la Justice, il faut savoir que les condamnations pour outrage, rébellion et autres atteintes à l'ordre administratif et judiciaire ont augmenté quand même de 74% en 20 ans. Et cette augmentation, évidemment, s'explique essentiellement par l'usage que les flics font de ces délits et pas vraiment par une augmentation insensée de gens qui se rebellent contre l'autorité. Donc le délit d'outrage et rébellion, il va très souvent servir aux flics à couvrir leur violence. Donc à savoir, lorsque les flics tapent sur quelqu'un, que ce soit à l'occasion d'une arrestation ou au commissariat, ils vont presque systématiquement poursuivre cette personne pour outrage et rébellion, souvent associé au délit de violence volontaire. Donc ça va être une manière pour eux de justifier toutes les marques de coups visibles, puisque cette personne était violente, il a bien fallu la maîtriser et donc faire usage de la force. Et ils se dédouanent ainsi à l'avance de toute plainte ou même de toute mise en cause de leur violence devant un tribunal. Ça va aussi permettre aux flics de poursuivre ceux qu'ils considèrent comme des gêneurs. Un cas typique qu'on a assez souvent vu dans les tribunaux, c'est un passant qui intervient lors d'un contrôle d'identité ou d'une arrestation qui va trouver un peu trop musclé. Et là, même s'il s'agit que d'une petite remarque... le passant peut assez facilement se retrouver inculpé d'outrage, éventuellement de rébellion, voire d'incitation à l'émeute. Ça s'est déjà vu. Hein. Et on voit aussi des cas où l'outrage, et donc les divers délits associés, servent à envoyer en taule pour souvent plusieurs mois ceux que les flics avaient ciblés comme des meneurs dans une cité, lors d'émeutes notamment. Alors ça leur permet évidemment d'avoir pas à fournir de preuves et d'avoir juste à dire « ouais ». Il m'a insulté, il s'est rebellé, etc. Donc, et pour finir, évidemment, le délit d'outrage, ça permet aux flics d'arrondir leur fin de mois. Donc, il y a une loi qui s'appelle la loi Le Port, avec un S à la fin, qui oblige l'État à verser à ses fonctionnaires les dommages et intérêts qu'ils ont obtenus lors des procès, même si les condamnés ne peuvent pas payer. Donc, en cas d'outrage, les flics sont à peu près sûrs de toucher des sommes qui vont quand même assez souvent au-delà de plusieurs centaines d'euros, voire un millier. Et ils sont sûrs de les toucher, même si la personne condamnée est insolvable. Et alors, juste pour terminer, un petit chapitre sur comment réagir quand on est accusé d'outrage. Donc, qui est évidemment des conseils qui ne sont pas des solutions miracles, mais qui peuvent des fois éviter de tomber dans les pièges les plus grossiers. Donc... À savoir que dans la plupart des affaires d'outrage et rébellion, le dossier de l'accusation se résume aux déclarations des flics. Faut savoir qu'en droit, le témoignage des flics n'a pas plus de valeur que celui de n'importe qui, mais qu'en réalité, dans les tribunaux, dans les faits, la connivence entre le pouvoir et la justice est telle que le tribunal va systématiquement favoriser les flics. Donc, pour l'accusé, il va s'agir de contester avec le plus de force possible la version des keufs. Et l'expérience montre qu'ainsi on arrive rarement à la relaxe, mais qu'on arrive quand même à des peines moins graves. Et que par contre, toute autre stratégie, en particulier dire, s'imaginer que faute avouée et moitié pardonnée, en général conduit aux peines les plus lourdes. Donc, comme d'habitude, nier le plus fermement possible, avoir prononcé les paroles qu'on est accusé d'avoir prononcées, ou effectuer les gestes qu'on est accusé d'avoir effectués. À éviter notamment, par exemple, faire nier les insultes, mais reconnaître avoir crié ou s'être énervé, ce qui va permettre au juge, en ce cas, de s'appuyer sur ce prétexte pour vous condamner avec un raisonnement du type « Ah, puisqu'il était énervé, il est fort possible qu'il se soit laissé aller aux insultes ». Donc, rester sur une position qui ne laisse aucune prise à une interprétation malveillante. Donc, j'étais très calme, je ne me suis jamais adressé directement aux policiers, etc. Et ne jamais en varier. Un autre point qui peut paraître évident à certains, mais pas à tout le monde, à quel moment vous allez donner votre version des faits ? Bah, comme on vous dit souvent, en garde à vue, c'est jamais le meilleur moment. Donc, comme d'habitude, on vous répète qu'il faut mieux garder le silence et qu'en plus, c'est un droit. Et que, donc, bien que les flics, souvent, vous menacent, soit de rester plus longtemps en garde à vue, ce qu'ils peuvent faire, hein, cela dit, mais ou quoi, vous avez le droit de vous taire. Et parfois, il faut mieux passer quelques heures de garde à vue supplémentaire que de se retrouver avec une condamnation par la suite. Donc, fermez votre gueule en garde à vue, ça permet aussi et surtout dans ces cas-là d'éviter que les flics profitent de votre déclaration pour rédiger ou modifier leur propre déclaration en fonction de ce que vous avez dit, de manière à vous enfoncer davantage. Bon, ensuite, donc, vous allez passer devant un juge, à ce moment-là, vous aurez eu accès au dossier, vous connaîtrez la version des flics et vous pourrez donc vous préparer à votre défense. Donc voilà, bon, c'était rapidement quelques conseils. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Et donc, je répète quand même le rendez-vous de ce week-end, le 23 au 1 rue Masséna. Donc, un concert de soutien à deux personnes qui sont incarcérées pour payer leur mandat.
Voilà. Tout à fait.
Musique.
Petite musique.
Ouais.
Et on va mettre un petit Elvis Presley.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask
ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touches my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah.
Ouais, Ndéchène.
Ouais, Ndéchène, bah, du coup, on va donner quelques nouvelles de Christine, dont on a déjà parlé lors de précédentes émissions il y a quelques semaines. Donc, Christine, voilà, c'est donc une personne qui est bergère et qui, surtout, a une sacrée dent contre l'autorité, et ça se retourne malheureusement un peu trop souvent contre elle. Donc voilà, c'est une personne qui a déjà effectué pas mal de peines, justement pour des histoires d'outrage notamment. Et donc bah, récemment, le 8 novembre, à l'atoll de Corbas, alors qu'elle allait voir un ami à elle au parloir, elle a eu une nouvelle altercation avec des matons. Et du coup, elle s'est retrouvée enfermée. Donc elle était poursuivie pour donc outrage, en l'occurrence aux matons, mais aussi pour différents faits qui se sont déroulés pendant sa garde à vue. Et donc, elle a été jugée le 13 février dernier. Elle a pris 4 mois ferme. Donc, bah, c'est quand même pas mal pour un outrage. En l'occurrence, c'est donc uniquement pour ce qui s'est déroulé au parloir, parce que la garde à vue a été annulée donc, pour des histoires de vice de procédure, etc. Donc, ce qu'on lui reprochait de ne pas avoir voulu donner son ADN, d'avoir à nouveau commis des outrages pendant la garde à vue et de s'être évadé de garde à vue, ça n'a pas été retenu contre elle. Mais par contre, voilà, ils ont quand même condamné Christine à 4 mois ferme pour ce qui s'est déroulé donc, à l'atoll de Corbas le 8 novembre. Donc, peine à laquelle s'ajoutent bah, des peines qu'elle avait déjà, voilà, pour lesquelles elle avait déjà été condamnée, notamment une histoire d'altercation avec un gendarme voilà, qui lui a collé un outrage parce qu'elle a froissé un PV devant ses yeux. Voilà, donc Christine s'est d'abord retrouvée incarcérée à la maison d'arrêt de la Talaudière à côté de Saint-Étienne. Elle a été condamnée au prétoire à quelques jours, quelques semaines d'isolement. Comme il n'y a pas de cellule d'isolement à l'atoll de Saint-Étienne, ils l'ont transférée à l'atoll de Corbas à côté de Lyon. Finalement, elle a été à nouveau transférée, ce coup-ci à Joux-la-Ville à côté d'Auxerre, donc ça fait encore plus loin de chez elle et de ses proches, où elle est donc actuellement en isolement.
Et voilà. Pour la casser, quoi.
Voilà, pour la casser encore un peu plus. Et donc, bah, je vous propose d'écouter un petit montage qui a été fait par Radio Canu sur Lyon, où voilà, Christine revient donc sur l'altercation au parloir, et puis aussi sur ce qui s'est passé donc il y a 2 ans quand elle était bah, une fois de plus à la maison d'arrêt de la Talaudière à côté de Saint-Étienne.
Christine est bergère. Christine aime la route et pisser dans l'herbe, mais Christine est amenée à se rendre régulièrement en prison pour rendre visite à son copain.
Fin juillet, là, je vais au parloir voir un copain. Donc, on arrive dans le sas, tac, ils nous mettent tous là. Un par un, on donne la carte d'identité. Et là, c'est mon tour de passer. Donc, je passe, pip, les chaussures sonnent. Donc, je défais les chaussures, je repasse, ça sonne pas. Et il me dit, retirez votre veste. Mais non, je retire pas ma veste, ça a pas sonné. Retirez votre veste. Non, je retire pas ma veste. Et là, je commence à m'exciter, à bouger de plus en plus. Et lui, il reste impassible, tu vois, le mec. Probe, je n'attrape pas la provocation. Retirez votre veste. Au bout d'un moment, la colère me prend. Je retire la veste, le t-shirt, le pantalon. Et j'avais pas de soutien-gorge en plus. Je me retrouve en culotte devant tout le monde. Et je regarde le mec droit dans les yeux, lui, le maton, les yeux par terre. Il dit, ça va là, comme ça, tu vois. Et je repasse sous le portique, ah, ça sonne toujours pas. Pendant ce temps, évidemment, mes vêtements étaient passés au déclétérique, et je me rhabille. Et puis, il dit, bon, ben, on va aller au parloir. Vous, vous restez là, vous allez voir le chef. Je dis, hors de question, c'est pas le chef que je suis noire, c'est mon copain. Je veux pas voir le chef, je veux aller au parloir, j'ai pas sonné, j'ai rien. Donc ils m'ont mis de côté, hein. Le chef est venu, m'a fait le petit speech, puis ils m'ont laissé aller au parloir. Et surtout, ils ont bien fait attention à la fin du parloir, que je croise pas les autres familles, quoi, que les autres familles soient convaincues que j'étais en garde à vue.
De rébellion en outrage, de refus de prélèvement ADN à évasion de garde à vue, Christine finit par être condamnée et se retrouve entre quatre murs.
La talonnière, la cour des femmes, elle est vraiment chouette. Il y a de l'herbe, il y a des petits bancs et tout, les nanas, elles étalent leurs serviettes, elles se bronzent. Et il y a un arbre, un vrai arbre. Et j'étais là, allongée sous l'arbre, et j'ai entendu un piaf. Et j'ai eu envie de monter dans l'arbre pour voir si le nid il était habité. Donc je suis montée dans l'arbre, toutes les filles m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je monte dans l'arbre. Évidemment, les matons qui arrivent « Descends de là !» Je dis bah, « Je monte voir le nid et je redescends. » Et je leur gueule en bas « Ouais, bande de moutons, pourquoi vous leur obéissez ?» Ils m'ont répondu « Ta gueule, la chèvre !» Donc je redescends, là ils me tombent dessus à 8 pour m'emmener à la cellule d'isolement. À la talonnière, au bout de 10 jours, j'en étais à 5 rapports de discipline. Donc ils m'envoient au mitard. Mais à la talonnière, il n'y a pas de mitard chez les femmes. C'est une trop petite prison, ils n'avaient pas prévu ça. Puis on n'a pas prévu que les femmes se rebellent non plus. Et puis,
à
Cambas. J'avais eu le temps de lire le petit livret qui donne et j'arrive en prison. Et ils expliquaient qu'au mitard, t'avais le droit à avoir ton tabac et à bouquiner. Et en fait, il a fallu 18 heures pour que j'aie mon tabac. J'ai mis un bordel phénoménal. J'ai tendu le drap pour qu'il puisse pas... Parce qu'en fait, le mitard, il y a la porte avec l'œilleton où il regarde. Un mètre et demi après, il y a une grille dans laquelle il y a un tout petit trou où ils peuvent passer le bol d'eau chaude le matin pour pas avoir de rien. Et puis, il y a ta cellule où il n'y a que le matelas et la table. C'est tout. Donc, si tu prends le drap, tu le tends sur la grille, l'œilleton, il est fermé. Enfin, ils ne peuvent pas voir ce que... Donc, j'ai revendiqué, ils sont venus, le directeur est venu. Il y a un moment, ils sont venus assis, ils me font une clé de bras là, dans le dos, en me disant maintenant tu signes le règlement intérieur. Je le signe pas, le règlement intérieur, il dit que j'ai le droit au tabac, le règlement intérieur, je vais pas signer ça comme quand tu m'as donné mon tabac, salaud, il est où mon tabac? Il dit arrête de bouger. Et donc, au bout d'un moment, ils disent bon, voilà, on envoie le psy, quoi. Ils voulaient faire l'entretien médical à travers la grille. Non, ça se passe pas comme ça, là. Tu te souviens d'Hippocrate, tu rentres dans la... Oui, mais vous avez l'air énervé. Et alors? Oui, évidemment, je suis énervé, t'es tout bim. T'es là pour ça, c'est parce que je suis énervé que t'es venu, non? Oui, mais non, tu laisses les matons de l'autre côté, tu rentres. Ou alors, tu me fais un papier comme quoi tu refuses de m'observer. Et bon, bon, d'accord, je rentre, mais vous engagez à pas être violent avec nous? Je dis, bah, si tu me mets pas la main dans le dos, si tu me colles pas au sol, il y a aucune raison que je sois violente avec toi, moi je veux mon tabac, c'est tout. Et puis il me dit, ouais, mais là, vous avez l'air vraiment énervé, peut-être ça serait mieux d'aller à l'hôpital, ça serait moins contraignant. Je dis, t'arrêtes tes conneries, je sais bien, à l'hôpital, on est attaché sur le lit, là, je suis enfermé en cellule. Oui, mais là, vous vous rendez compte, énervé comme ça, vous pouvez blesser un surveillant, ça va vous faire encore du pénal. Je dis, mais dis-leur à tes surveillants de pas me toucher, il n'y aura aucun problème. Oui, mais ils pourraient vous faire mal à vous, vous seriez mieux à l'hôpital. Bon, au final, ils m'ont envoyé à l'HP, un HP spécial, puisque ça s'appelle l'UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée, c'est à Bron, et c'est une annexe de la prison. Ça dépend totalement de la pénitentiaire. Par contre, après, bon, il y a encore des barreaux aux fenêtres, il y a encore des cellules fermées, mais comme à l'hôpital, la plupart du temps, les portes aussi sont fermées en HP, ça ne change pas grand-chose, et là, il n'y a que des types en blanc. Par contre, dès que tu t'énerves, ils disent « Attention, on va appeler les surveillants !» attaché sur le lit, piqûre dans le cul, jusqu'à ce que tu sois bien drogué.
Ça s'appelle du loxapac.
C'est un truc qui fait de toi un légume. Tu dors 15-16 heures par jour. Et le reste du temps, tu trouves tout normal. Vraiment, jamais rien de raison de s'énerver. Ouais. T'es là, assis sur le lit, t'attends, ils te disent bah, tu veux fumer une cigarette, ouais, alors tu sors. Je dis mais on rentre déjà, ah bah oui, ça fait 20 minutes, on rentre. T'as plus le truc de dire mais attends, c'est une heure la promenade, non, tu rentres. Tu te rassois sur le lit. Et non, c'est efficace.
C'est comme si tu te réveilles et que tu te souviens que t'es arrivé, que tu te faisais chier.
Voilà, voilà, ND Chaîne 88.4, voilà, on a entendu Christine. Et ben, si vous voulez lui écrire, allez sur le site de ND Chaîne, ndchaîne.free.fr, et on tâchera de mettre rapidement son numéro d'écrou pour ceux que ça intéresse. Et sinon, il y a aussi le Sans Remède numéro 4 qui est sorti avec un dossier justement sur l'utilisation de la psychiatrie par la répression. Et où on peut retrouver des lettres de Christine datant de...
Et je crois son numéro d'écrou.
Voilà, et sûrement son numéro d'écrou aussi. Et voilà, et voilà.
Bon, et alors du coup, on va passer d'une prison à l'autre. Une prison à l'autre, ça veut dire là, on va parler du centre de rétention de Palaiseau. Et du 16 décembre 2012, où il y a 5 personnes qui ont tenté de s'évader. Et tant mieux pour les 4, mais... Enfin, un peu dommage pour la cinquième personne qui, elle, a pas pu prendre la malle. Et du coup, je vais vous lire un texte qui a été écrit par le collectif Sans Papiers ni Frontières de Paname. Du coup, qui fait un peu le lien par rapport au sans-papiers. D'une prison à l'autre. Le 16 décembre 2012, 5 personnes tentent de s'évader du centre de rétention de Palaiseau. 4 vont y parvenir, mais la cinquième personne... Ibrahim va rester dans les mains de la police qui le passera à tabac. Il est placé en garde à vue, puis déféré devant un juge 2 jours plus tard, accusé d'avoir ceinturé un flic pour lui voler un badge magnétique qui a permis aux autres de se faire la belle. Bonne cavale. Il est ensuite incarcéré en préventive à Fleury-Mérogis jusqu'au 18 janvier 2013, jour du jugement, où il est condamné à 2 ans de prison ferme et à verser 1 200 € à 2 flics qui se plaignent de violence. En centre de rétention, l'évasion n'étant pas un délit, les flics et les juges cherchent donc à charger sur d'autres chefs d'inculpation. Ibrahim se trouve maintenant incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. Il n'a pas fait appel à la condamnation. Quand on est isolé, étranger, et qu'on ne parle pas français, sans avocat, il est quasiment impossible de comprendre qu'on a 10 jours pour faire appel. La justice écrase, d'autant plus que l'on est pauvre et sans papier. D'une tôle à une autre, de la prison pour étrangers à la maison d'arrêt, le chemin est tout tracé et dans les deux sens. Le pouvoir profitera toujours des révoltes, des tentatives d'évasion, des refus d'embarquement. Il profitera toujours pour enfermer toujours plus les recalcitrants. Et inversement, quand on sort de prison et qu'on est sans papier, ce qui nous attend, c'est dans la plupart des cas le centre de rétention et l'expulsion. Quand on est enfermé dans un centre de rétention, quand tous les recours juridiques sont épuisés et quand s'annonce l'expulsion, la seule alternative, c'est l'évasion et la révolte. C'est pourquoi ces histoires se répètent. Quelques jours avant l'évasion de Palaiseau, 3 personnes se sont échappées du centre de rétention de Vincennes. On espère qu'ils courent toujours. À Marseille, en mars 2011, des retenus ont mis le feu à la prison pour étrangers du Canet. Depuis, 2 personnes sont sous contrôle judiciaire après être passé par la case prison dans l'attente d'un procès. Pour Ibrahim, comme pour ceux de Marseille, il est important d'être solidaire avec celles et ceux qui se révoltent pour leur liberté, qu'ils soient innocents ou coupables. Car tant qu'il restera des prisons, des papiers et des frontières, la liberté ne restera qu'un rêve. Feu à toutes les prisons, liberté pour tous et toutes. Et pour ne pas laisser Ibrahim isolé face à la prison et à la justice, il est possible de lui écrire... c'est Ibrahim, El Louar, E-L, plus loin, L-O-U-A-R. Le numéro d'écrou, c'est le numéro 39 98 15, bâtiment D4, M-A-H de Fleury-Mérogis, 7 avenue des Peupliers. Et si on veut lui envoyer des vêtements et des colis, ou pour tout autre contact, il est possible d'envoyer un mail à evasionpalaiso@riseup.net. Et toutes ces informations, et pour aussi savoir tout ce qui se passe dans les centres de rétention et les luttes qu'il y a, il y a une adresse, un blog qui s'appelle Sans Papiers ni Frontières, noblog.org, que vous pouvez trouver sur Internet.
Ouais, et d'ailleurs, on vous rappelle que tous les numéros d'écrou, donc des personnes dont on vous parle, on va les mettre en ligne sur le site donc, de ndchaine.free.fr. Donc vous pouvez retrouver leur adresse à cet endroit-là et leur écrire vos petits mots. Voilà, sinon, en attendant, et bah, du coup, on va quand même vous parler du vite fait, vous lire l'édito du journal L'Envolée qui est sorti il y a une semaine maintenant. Donc c'est le journal qui permet de passer des communications entre l'intérieur et l'extérieur, où il y a pas mal de témoignages de détenus et donc d'une vision de journal anticarcéral sur ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous lire l'édito. Par contre, on y reviendra un peu plus longuement la semaine prochaine, un peu plus en détail. Et voilà, et après on passera sur donc un montage qui nous parlera donc des violences policières. Je vous lis l'édito. Dernier scandale en date, la vétusté de la prison des Baumettes. Partout, on a pu voir des images de cellules délabrées, de sanitaires hors d'usage, de tas d'immondices, de rats, de douches dégueulasses. Voilà le scoop. Taubira elle-même a convenu publiquement qu'on faisait semblant de découvrir une réalité connue de tous. Un collectif d'avocats marseillais a réclamé la libération des prisonniers des Baumettes. Le tribunal administratif a ordonné une opération de dératisation. Comme d'hab, ils nous la font à l'envers. La politique pénale entretient la surpopulation des maisons d'arrêt. Ils construisent toujours plus de nouvelles cellules. La dernière tranche du plan des 13 200 places de 2002, à peine achevée, la garde des Sceaux signe déjà un nouveau partenariat public-privé, donc un PPP, avec la société SPI Batignolles pour les futures prisons de Valence, Riom et Beauvais. C'est à la lumière de ces faits qu'il faut relire les grandes envolées lyriques de la ministre de la Justice contre le tout carcéral et les partenariats avec le privé. Ce mode de financement n'est, entre guillemets, pas acceptable, déclarait-elle dans Les Échos en juin 2012. Toujours des mots, rien que des mots. Face à Laurent Jacquat, ancien prisonnier longue peine qu'il avait apostrophé sur la situation des longues peines et des prisonniers malades, il y a les mots et il y a la réalité. Elle avait répondu « L'enfermement est une détresse, je crois qu'on peut en faire une perspective. » Ouais, comme tu dis. Et voilà, bref. La gauche a toujours tenu à donner du sens à la peine. Les prisonniers peuvent en témoigner. Taubira s'inscrit dans la lignée des Badinter et compagnie qui ont su faire accepter l'existence et la généralisation des quartiers de haute sécurité, les QHS, par l'opinion en les renommant quartiers d'isolement, et ont remplacé la peine de mort par l'enfermement jusqu'à la mort. Ce sont des prestidigitateurs qui jonglent avec les mots, changent le nom pour garder la chose. Cette ministre dit se préoccuper des conditions de détention et du sort des prisonniers. Mais alors, comment expliquer qu'elle n'ait pas répondu aux pétitions et plateformes des revendications des prisonniers de Roanne, Annelin, Argentan, Ducos, dont nous nous sommes fait l'écho au numéro précédent? Pour celles et ceux qui auraient encore quelques illusions sur ce gouvernement, rappelons-leur ces revendications et leur traitement. Aménagement de peine ? Nada. Demandons entre autres à Mounir ce qu'il pense de la révocation de sa conditionnelle, ou bien à Kaoutar de ses refus de permission, ou encore à Philippe El-Shenaoui du maintien de sa période de sûreté. Quant à l'abolition du mitard et des QI, Laurent Orsini devrait sans doute remercier le pouvoir socialiste pour les longues périodes de solitude qui lui ont été accordées. Et l'ensemble des prisonniers devrait aussi se réjouir des régimes différenciés dans les centres de détention et du retour du régime porte fermée. Quant au parloir, tout est à la sécurité et on se dirige partout vers le régime strict des maisons d'arrêt. Et les cantines. Les prisonniers de Réau, Annelin et Nantes sont sûrement très heureux d'être acquittés par la société Témis, filiale de Bouygues. Le travail, l'idée d'un salaire au moins aligné sur les misérables paies de l'extérieur, n'est pas prête de sortir des oubliettes. Les locataires, entre guillemets, des nouvelles prisons regrettent leurs anciennes maisons d'arrêt vétustes. Ils dénoncent le développement massif du sécuritaire et de l'isolement, même si les cellules sont toutes neuves et équipées de douches individuelles. Ceux qui sont revenus de Cayenne après la fermeture du bagne et ont fini leur peine dans les prisons de la métropole se plaignaient déjà régulièrement de leurs nouvelles conditions de détention et regrettaient la Guyane. Comme disait feu Jacques Mesrine, une cage dorée reste toujours une cage. C'est à l'aune de cette évidence que se mesure le fossé entre l'intérieur et l'extérieur. Quand le pouvoir s'occupe des conditions de détention, c'est pour sophistiquer l'enfermement. Quand les prisonniers dénoncent leurs conditions de détention, c'est pour arracher un peu de liberté. Plus on améliore les conditions de détention, plus on enferme les gens. Le problème, ce n'est pas les conditions de détention, c'est la détention elle-même. Poser le problème de la détention, de l'enfermement, c'est poser la question de son existence et de son utilité sociale. À quoi sert-il ? Et à qui ? La prison ne peut se comprendre hors de la société qui l'engendre. On ne peut pas comprendre le procès de Philippe, qui a pris 20 ans pour 20 000 euros, sans avoir en tête le rôle de l'argent dans notre société. On ne peut pas comprendre ce qui se passe à Hanelin si on ne comprend pas que, dedans comme dehors, une des priorités de ce système est la gestion de ceux qu'il traite comme des déchets. On ne peut pas comprendre la mort de Jordana et Papy sans penser à la place assignée aux prisonniers et aux pauvres en général dans la hiérarchie sociale.
Pourquoi les innocents sont-ils punis ?
Et on reconnaît les connards à leur uniforme.
Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit.
Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Réparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ethnique. Antipathique, sadique, allergique aux flics. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail molotov sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé. Je dois sacrifier un poulet.
Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout comme autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Les gamins veulent en être en maître. Au CRS chou qui se lance à l'assaut. Matraque à la main dans les quarts du vin. Des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier ressemble au territoire occupé. J'engraine, j'engraine à la mauvaise conduite. Certains ne m'écoutent pas et tentent la fuite. Pfff, y'en a qui voltigent. Boum, les gars veulent le prestige. Comme le font les médias, le peuple tu mets pas. Le monde est à moi, je suis dans les Montana. J'ai dans moi tous les flics. Ce soir j'ai pas d'usine. Stop, il laisse la place à Bugsy. Avant de laisser faire mes pulsions meurtrières, j'adresse au Tout-Puissant mes dernières prières.
Mais demande à Dieu de rester vivant.
Et j'appelle le diable pour faire couler le sang.
Pas de paix sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Ce soir la lune est pleine, ce soir je suis en veine. Et tous les groupes j'assène font mal à l'indigène. Et déjà la même scène de Fleury à Oni, Bonnard, et Fren. Ce soir j'ai la santé, ouais. Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Il est 7h du soir, la nuit tombe.
Et la nuit qui commence pourrait bien être des plus mouvementées.
Quand la vie les autres nous enferrent. Quand le stress persévère, quand on déferre nos sœurs et nos frères. Quand il nous reste qu'une seule vision de la vie, t'as fou par leur avis, ouais ouais. T'as vu un ciel qui se dégage par ici. Ni Dieu ni maître, ni esclave, ni possi. RK, une goutte de plus dans cet océan de merde. En attendant que ça déborde et que ça gêne. Si ça gêne, y'a pas de problème, y'a pas de paix. On noira les obstacles, on vénère pas sans frais. S'il en faut des cramer, y'en aura. Le pire produit de ce système réuni, crois-moi. Fume-moi du œuf que j'allume mon coco. Ma sens, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu de bombée à Mexico. En raya ou en solo, on repart à zéro. Mélancolique, j'm'agite et pose avec ma clique sur speed. Mécanique, mécogite, multitep claustrophobique. Déteste des tests sur rythmique, anthropophagique. Et si y'a un hit qu'on se kick. Quand l'apparence et l'ego trip. Quand l'ignorance des médias et des politiques flics reste des cendres de ce qu'ils sèment logique.
Une nouvelle dépêche vient de tomber.
La propagande marche plus que jamais. L'invasion des jeunes à capuche les effraie. La rage face à l'oppression. La haine, l'interprétation. La prédation des ragoteurs. Les chaînes et les stations toujours à l'heure. À l'affût du sans-sas pour faire leur peur qu'ils crèvent. RK. File-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma sens, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu de bombée à Mexico. En raya ou en solo, on repart à zéro. Antifa, il sera jamais trop tard pour abattre ces bâtards qui sont en bombeur sous en costard. Cossa, tes initiales CNS et ça me rappelle vaguement quelque chose. La vieille France s'enfonce et on s'étonne. Comme des tons mousses à voter sans vergogne. J'ai déjà dit mais je le répète, c'est clair, l'illusion démocrate est un fait. Les caisses brûlées alors, la Saint-Jean avant l'heure. Mon prétexte pour la peur, nous foutre un hélico sur le pif. Casse dédiée aux émeutiers qui n'attendent plus que le temps passe. Ça fait la une et la presse s'anime. Une seule représentation des victimes. Les honnêtes citoyens devenus piétons. Les pauvres commerçants et leurs ruines. Tous participent au capital qui ne s'étonne pas d'être une cible remarquable. Pas assez de banques brûlent à mon goût. Mais ma faute, mes bras tremblent et mes genoux. Trop conditionnés, j'essaie chaque jour tirer mes perfs. Mais plus facile comme tout le monde d'être def. File-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma sens, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu de bombée à Mexico. En raya ou en solo, on repart à zéro. File-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma sens, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu de bombée à Mexico. En raya ou en solo, on repart à zéro. R-Y-O, J-O-R-D-O.
Anormalement calme, qui s'est terminé par des échauffourées sur l'une des principales artères de la ville, symbole d'un capitalisme triomphant.
La domination policière, une violence industrielle, et qui est aux éditions de La Fabrique.
Coupe à la France, main sur la crosse. Tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux. Tu utilises la force, brassard de police et drapeau sur le torse. Tu fracasses tes faces en légitime défense. Et rappelle qu'ici quand même on est en France. Et que toi tu penses et fais des sacrifices. C'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs. Ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux. Et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès. Des sales manouches, des sales bicots et négresses. Les collègues t'applaudissent et une juge te caresse. Et pour fêter ça, tu tires en état d'ivresse. Qui sont-ils?
Part d'un constat de ce qui est appelé les violences policières, en gros de ce qu'on peut aussi appeler les bavures, et lui en fait son truc c'est de dire que ces bavures c'en est pas, que cette violence policière elle est organisée, elle est gérée, elle est influencée par plein de personnes, quoi que ce soit au niveau de l'État, des industriels. Et que en fait c'est pas juste des méchants flics qui pètent les plombs une fois et qui tirent sur quelqu'un et qui le tue. C'est pas du tout un hasard et que c'est en fait une violence qui est rationalisée, quoi. Voilà.
C'est un pléonasme.
Voilà, que la violence policière c'est un pléonasme et qu'il n'y a pas de police non violente, mais que c'est pas non plus un bloc, quoi, que la police ça a pas toujours été la même, quoi, et qu'elle est en train de se restructurer, que la police elle a une histoire. Et lui, il parle plus particulièrement de la police, ce qu'il appelle de la ségrégation endocoloniale, quoi, de la police qui est surtout appliquée aux immigrés et aux fils d'immigrés, quoi, aux non-blancs pauvres. Et il voit en fait d'où vient cette police et pourquoi est-ce qu'elle tue autant et à quoi est-ce qu'elle sert, quoi, à qui elle sert. Donc en fait, ouais, l'auteur, là, Mathieu Ribouze, donc c'est un mec qui est assez jeune, qui a une trentaine d'années, qui lui est passé par des études de sociologie. Et donc utilise toutes les méthodes de la sociologie, quoi, pour étudier les violences policières et tout le système qu'il y a derrière. Et mais c'est quand même un mec qui justement a tendance à vachement critiquer la sociologie académique universitaire parce qu'il sait aussi que cette sociologie là, quoi, académique, elle sert en très très grande partie au contrôle, quoi. C'est-à-dire que à la fois des fois déjà pour diffuser des idées fausses, quoi, c'est-à-dire que
elle va aller toujours dans le sens de l'État, du coup.
Ouais, bah par exemple, c'est que la plupart des études qui sont faites sur les violences policières, apparemment, elles sont centrées sur toutes les initiatives de la police, enfin leur permettant de réduire leur propre violence. Et lui, il explique bien que toutes ces études, elles passent toujours à côté de toutes les brimades quotidiennes, les humiliations, les techniques d'étranglement, les fouilles au corps, les contrôles d'identité, les perquisitions, tous ces trucs qui font la vie quotidienne des gens. Tout ce qu'on disait, la police de proximité, par exemple, qui a été inventée par la gauche, et quand la droite dit « ouais, c'est une police qui va jouer au football avec les gamins », je veux dire, c'est juste du délire, quoi. C'est une police d'occupation qui est, elle aussi, vraiment héritée de stratégie de contre-insurrection qui était utilisée dans le colonie, quoi. Le modèle, c'est un peu normalement que tu as une police d'occupation qui quadrille le terrain et qui empêche les gens de se mobiliser, qui essaye de paralyser la vie sociale. Donc cette fameuse police de proximité, quoi, qui est là pour occuper le terrain. Et ensuite, tu as des brigades de choc, quoi. Toutes les BAC, RAID, GIGN, BSN, RAID, tous ces trucs-là. Et les études académiques, elles sont complètement... qu'elles servent beaucoup plus l'État et ces mêmes personnes que lui, il essaye malgré tout d'en faire une arme, quoi, pour comprendre et pour pouvoir mieux répondre à toutes ces agressions qui leur sont faites, quoi. Ouais.
D'ailleurs, pour ce bouquin, il s'est pas mal servi d'exemple de son premier bouquin, de sa thèse, ouais, qui est sur l'ennemi intérieur et en quoi les techniques policières de contre-insurrection, elles ont été importées ensuite sur le territoire français.
Ouais, ouais. Il part un peu, ouais, du début du XXe siècle, où en gros dans les années 30, quand le patronat français a décidé de, pour se restructurer et pour avoir des nouveaux marchés, a permis en fait à la classe supérieure, en fait, du prolétariat, donc en fait le prolétariat blanc, en fait, d'accéder en tout cas pour une partie à la petite bourgeoisie. Et mais malgré tout, en fait, les villes à cette époque-là, les grandes villes capitalistes, avaient besoin de main-d'œuvre, et elle était toute trouvée, quoi. C'était la main-d'œuvre des colonies, quoi, qu'on a fait venir en métropole. Et ces gens-là, en fait, vu qu'ils étaient évidemment exploités et logés dans des conditions folles, en fait, ils étaient pour la plupart en bidonville. Et ben il fallait une police pour encadrer cette population, parce que forcément vu les conditions qui leur étaient faites, et ben c'était des gens qui étaient plus propices à révolter, quoi, contre l'ordre établi, quoi. Donc, dans les années 30, il y avait un truc qui s'appelait la brigade nord-africaine, qui recrutait en fait parmi les anciens de l'Algérie. C'était une brigade qui était clairement raciste, et donc c'est pour ça qu'elle était dissoute à la libération. Bon, après elle va reprendre sous différentes formes. Voilà, elle n'aura pas le nom de brigade nord-africaine, mais cette police-là, elle va toujours exister, quoi. D'où vient le mot bavure? C'est qu'il y avait des brigades, celle-là, elle date des années 50, c'est la brigade des agressions et violences, BAV, Et donc bavure, en fait, ça vient de là, quoi. C'est les BAV qui s'appliquaient spécialement, quoi, justement aux populations immigrées, quoi, et qui évidemment aussi à l'époque tuaient allègrement. Eux, ils étaient en partie en fait chargés de, ouais, c'est ça, de paralyser, quoi, les résistances des colonisés, quoi, et de lutter en fait contre la politisation de ces gens-là, quoi. En plus, à partir du moment où il y a la guerre d'Algérie qui a commencé, quoi, c'est des mecs qui ont pris de plus en plus d'importance. Donc c'est des types qui allaient directement dans les bidonvilles et qui pratiquaient des tactiques contre-révolutionnaires. En fait, c'est des tactiques militaires au départ qui ont été élaborées au Maroc, en Indochine, et puis qui ont vraiment été élevées au rang de doctrine d'État en Algérie. Et c'est des trucs qui sont appliqués donc en métropole pour les coloniser. Par exemple, il y avait un truc qui s'appelait les brigades Z sur Paris, et qui était en fait donc une police en fait des brigades de casseurs, quoi. C'est des mecs qui étaient en treillis, en bottes, et qui étaient là pour lutter en fait contre l'extension des bidonvilles. Par exemple, quoi, là, au début des années 60, à Nanterre, il y avait des bidonvilles, quoi, qui regroupaient plus de 14 000 personnes, quoi. Donc ces mecs-là en fait étaient arrivés avec des masques, quoi, et cassaient par exemple les baraques qui voulaient pas voir se construire, quoi. C'est des mecs aussi qui montaient des monticules de terre devant les portes d'entrée pour que les gens puissent pas rentrer, qui évidemment terrorisaient les populations avec des flingues. Et en plus, au fur et à mesure que la guerre d'Algérie s'est envenimée et qu'elle est devenue de plus en plus violente, c'est des mecs là vraiment qui étaient là pour, enfin, qui ont incendié, torturé, raflé, enfin voilà. Le paroxysme de ce truc-là, c'est le 17 octobre 61, quoi, avec justement les manifs d'Algériens, et où ils ont raflé plus de 10 000 personnes, où il y a eu des dizaines de morts, et où il n'y a jamais eu aucun responsable politique de sanctionner pour ces trucs-là, quoi. Et toutes ces polices-là étaient formées par les gens qui s'occupaient de la police en Algérie, quoi. Donc forcément, tout ce qui était utilisé comme technique là-bas a été importé en métropole.
C'est là qu'on arrive à la création de la BAC, ouais.
Pas tout à fait, la BAC c'est en 71, mais ouais, carrément, c'est, bah, de toute façon, ça...
C'est dans la continuité de ce genre de polus.
Carrément dans la continuité. En fait, la BAC, donc, ouais, comme on dit, quoi, c'est vraiment, ça naît en 71, donc là aussi, pareil, tous les cadres policiers et politiques qu'ont présidé à la création de la BAC, c'est des mecs, en fait, qui ont été formés dans les années 50, donc qui ont été socialisés par l'expérience de la guerre d'Algérie. Ils vont réutiliser toutes les techniques qu'ils ont appris là-bas, quoi. Donc la BAC, au départ, elle naît, voilà, en 1971.
C'est pour ça qu'ils ont mis les casques.
En fait, il y avait déjà pas mal de, voilà, de bavures, quoi, avec ces brigades, et ça commençait à leur coûter de plus en plus cher au niveau médiatique, parce qu'il y a des gens, voilà, des espèces de comités, de gens, enfin, tous ces opprimés, quoi. À un moment, ils ont commencé à s'organiser, et ça commençait à faire un peu trop de remous. Et la brigade anticriminalité, elle était, en gros, c'était censé être le commencement d'une réorganisation de ces brigades pour canaliser ces violences, ou en tout cas leur donner, voilà, pour les gérer un peu mieux au niveau de l'État, quoi. C'est des brigades qui vont petit à petit se généraliser. Elles prennent plein de noms différents, quoi. Voilà, la BAC, c'est en 71. En 73, il y a un truc qui s'appelle les brigades spéciales de nuit, qui arrivent, et donc là, qui sont plus clairement, enfin, qui sont plus comme les brigades nord-africaines, des polices ouvertement et officiellement racistes, mais on leur donnera toujours les mêmes prérogatives. Ces brigades, elles étaient très productives, quoi. C'est, enfin, ce qu'il appelle, en tout cas dans le bouquin, des brigades de choc, quoi. C'est-à-dire des mecs qui font du flagrant délit, qui font de l'arrestation, qui font du chiffre. Donc c'est des choses qui permettent de faire exploser le nombre de cas de délinquance enregistrés, qui permettaient aussi justement d'imposer la notion de quartier sensible ou de zone d'insécurité. C'est-à-dire, voilà, il y a des quartiers très criminogènes, criminels ou quoi, et donc de dire, voilà, ces gens-là sont des criminels, et ça permet de pas parler de tous les problèmes auxquels ils font face au niveau de leur travail, de leurs conditions d'exploitation, de leurs conditions de logement. Donc voilà, les histoires de zones d'insécurité, de quartiers sensibles, ça vient aussi de cette époque-là et ça permettait déjà de faire diversion en parlant pas de leurs problèmes, quoi. Ça a aussi permis de faire émerger en fait un très gros business pour détruire ces zones et donc faire ce qu'ils appellent de la rénovation urbaine, quoi. En gros, ils détruisent, ils déplacent ces populations, puis ils créent des petits immeubles pour la petite bourgeoisie quand la zone en question, quoi, est intéressante pour faire des opérations immobilières.
Et ça permet aussi de faire le lien aussi du coup entre technique de contre-insurrection et intérêt financier.
Ouais, carrément.
Dans la police, quoi, que ça a les deux fonctions qui sont imbriquées, quoi.
Ouais, c'est vraiment, en fait, lui il explique vraiment dans le bouquin que cette violence policière, en fait, elle est ça peut paraître bizarre au départ, mais qu'elle est liée aussi à des intérêts financiers pour ceux qui fabriquent des immeubles et du béton, quoi, pour les grands industriels du bâtiment. Mais ça, attends, ça je t'en parlerai juste après, on y reviendra, mais en fait, il explique aussi que c'est en gros qu'au début des années 80 que les médias vont être complètement intégrés à la gestion de ces zones-là, quoi. Il explique il y avait déjà des émeutes et tout ça, enfin des trucs qui commençaient à faire du bruit dans les années 70, mais à partir des années 80, en fait, ils se sont saisis ils ont pris comme prétexte, en fait, l'histoire du rodéo, des rodéos de voitures aux Minguettes. Je crois que c'est les Minguettes, si je ne me trompe pas, c'est à Lyon. Et des grèves de travailleurs arabes pour, en fait, fabriquer un truc. C'est le problème d'intégration des immigrés. En fait, ça leur servait à criminaliser, quoi, les révoltes populaires en disant, mais voilà, ces gens-là, en fait, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à intégrer la culture française. Voilà, donc ça permet aussi, voilà, ça leur permettait de masquer tous les... Voilà, je l'ai déjà dit, quoi, l'exploitation au niveau du boulot, au niveau des conditions de logement, au niveau de l'école, au niveau de tous ces trucs-là, quoi, contre lesquels, eux, ils manifestaient en réalité.
Laborieuse classe dangereuse, on se recède, on refuse nos destinées. Classe laborieuse, classe dangereuse, une grosse bagarre pour pas être sous-estimé. Classe laborieuse, classe dangereuse, on fout le bazar, chez nous ça reste dîner. Classe laborieuse, classe dangereuse, on prend les armes comme moyen de s'exprimer.
Ce sont des sauvages venus des jungles d'Afrique. Ils sont très dangereux.
Recule, le feu est dans les véhicules. La banlieue gesticule, rend les bleus ridicules. La presse veut son scoop, la jeunesse son scalp. Et tout ce beau monde s'agite selon le script. Palpe cette ambiance, regarde ce malaise. Et le 93 n'est qu'une immense braise. Et les vitres se brisent, et les portes s'écrasent. Et ça colporte dans toutes ces phrases. Pourquoi on a su, on ne sait plus. Mais ce qu'on sait, c'est que la haine est en surplus. Qu'elle déborde et bombarde les barricades. Et qu'elle aborde au molotov les forces de l'ordre. Qu'elle n'a rien à perdre. Qu'elle se passe la corde au cou, se fout dans la merde. C'était casé dans tes enceintes de Blancoc le 3 novembre 2005. Humblement et très respectueusement, à la mémoire de Bouna.
Dans les années 30, que le patronat français se réorganise à la fois contre la menace communiste qui émerge en 1917 en Russie et aussi qui fait face à une des premières grosses crises de suraccumulation du capitalisme en 1929, quoi. La bourse s'effondre, tout ça. Le patronat se réorganise et décide d'avoir des nouvelles sources de profit en investissant à mort dans le marché militaire. Et de fil en aiguille, en fait, puisque là, c'est pas à proprement parler le marché de l'armement, quoi, qui est utilisé par la police, en tout cas, enfin, c'est un dérivé, mais pas tout à fait, quoi. C'est vraiment apparemment dans les années 60 que ce qu'il appelle le marché de la coercition, tout le marché du matériel, des techniques de police, quoi, c'est à partir du moment là où ça explose. Et par exemple, il donne un exemple, c'est vraiment dans les... Voilà, donc dans l'après 68, dans les rapports quoi qui sont faits, dans les retours d'expérience qui sont faits quoi de la gestion voilà des émeutes et des manifestations, on dit voilà il y a un gros problème de mobilité dans la police. De mobilité quoi à ce moment-là et ça va en fait à partir de ces rapports-là ça va ouvrir tout un marché quoi pour justement par exemple les véhicules policiers quoi les canons à eau les transports de troupes des boucliers amovibles sur les camions les unités motocyclistes quoi qui sont qui sont connues pour avoir tué Malik Houssekine et tout ça enfin qui ont disparu après. Voilà, justement pour générer ce marché-là, il faut créer aussi des menaces intérieures, quoi, la figure d'ennemis intérieurs. Donc ça c'est créé par les rapports, quoi. Il y a des gens dans un de ses autres bouquins qui s'appelle Les marchands de peur. Il analyse vachement ça avec le marché de la vidéosurveillance, quoi, avec des mecs comme Alain Bauer, quoi, que vous avez forcément vu à la télé. Qui sont à la fois experts, qui passent sur tous les plateaux télé pour dire « Oulala, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de délinquance, il faut de plus en plus de contrôle, de vidéosurveillance. » Et bizarrement, ce même Alain Bauer qui est expert, qui fait des rapports ministériels et tout ça, eh ben, il a une entreprise qui s'appelle AB Associates, autant que je me rappelle, quoi, et qui vend. Quoi. Donc il crée à la fois le besoin et ensuite il vend tout son petit business et il s'en met plein les fouilles. Quoi. Donc ce système-là, en fait, il marche pour la vidéosurveillance, mais évidemment, ce n'est pas les premiers qui ont inventé ça. Quoi. Il marche pour tout le matériel, pour l'exportation des techniques, la gestion du personnel policier, tout ça. Quoi. Et évidemment, bon là c'est juste des exemples, un petit aparté, mais il y a plein de lois, par exemple dans les années 80, qui ont ouvert ce marché-là. Quoi. Par exemple, il y a une loi du 12 juillet 83 qui autorise le port d'armes à feu en dehors de la police nationale pour les convoyeurs de fonds. Voilà, ça c'est qu'un petit exemple, quoi, mais c'est comme ça que tu ouvres des marchés et que tu permets aux industriels de s'en mettre plein les fouilles. À partir de 86, il y a tout un processus de dénationalisation des industries publiques de l'armement. Et par exemple, entre 81 et 95, le nombre d'entreprises de sécurité il va être multiplié par 4. Donc il y a vraiment des mecs qui s'en mettent plein les fouilles. Quoi. Et évidemment, quand on dit il y a des mecs qui s'en mettent plein les fouilles, c'est les industriels, mais faut bien se dire que quand tu ouvres des marchés comme ça, quand tu es politique, que tu diriges et que tu permets l'ouverture de ce type de marché, eh ben forcément, t'es rétribué de différentes manières. Et la première, c'est l'argent. Quoi. Il prend l'exemple du flashball, donc ce qu'il appelle les lanceurs de balles non perforantes. Et en fait, il regarde comment ça s'est développé. Donc, par exemple, il voit qu'au départ, ça a été utilisé quoi, dans la bande de Gaza quoi, par l'armée israélienne, ou je crois que c'est en Ulster par l'armée anglaise, et donc c'est du matériel qui est directement militaire et qui était utilisé en gros pour réduire le risque d'insurrection. Quoi. Apparemment, l'utilisation de l'arme lourde contre les populations, ça provoque plus d'émeutes et de bordel à gérer pour eux. En France, bon, évidemment, c'est une entreprise là, qui s'appelle Vernet Caron, qui est spécialisée dans les fusils de chasse. Quoi. C'est le plus ancien et le premier producteur apparemment de fusils de chasse en France. Donc c'est eux qui développent ça. Au départ, c'est pour pouvoir stopper du gibier en pleine course. Quoi. Donc c'est utilisé pour ça au départ. Donc ils donnent ça d'abord en 95 au RAID et au GIGN. Et puis ensuite à la BAC et aux polices de proximité à partir de 98, quoi, sur un modèle plus compact. Quoi. Et évidemment, c'est toujours des gros marchés quoi, qui se comptent en millions d'euros. Ouais, pareil, ça c'est des détails qui n'en sont pas. Bon, et donc évidemment, l'utilisation de tous ces flashballs, ça leur permet en fait de rendre les violences plus. En tout cas, de leur point de vue, plus acceptables. Et il y a de plus en plus de gens qui sont blessés, quoi. Mâchoires fracturées, éborgnées. Il n'y a pas que les flashballs quoi, qui blessent, mais ça en partie. Et évidemment, à chaque fois, c'est impunité policière, quoi. C'est très très rare les gens qui sont, enfin les flics qui sont condamnés pour ce genre de choses-là. L'entreprise même qui produit les flashballs explique qu'il y a une précision qui est de l'ordre de 60 cm. Donc en même temps, t'as le ministère de l'Intérieur qui, quand il y a une révolte ou quoi par rapport à l'utilisation des flashballs, lance des directives et médiatiquement explique qu'il fait passer le message aux troupes de ne surtout pas tirer dans la tête et dans le triangle génital. Mais en même temps, celui qui construit les flashballs dit que c'est pas précis à mieux que 60 cm. Donc en gros, ces mecs-là, ça veut juste dire qu'ils sont couverts administrativement. Ils peuvent tirer dans la tête puisqu'ils ont visé le nombril, mais 60 cm plus haut, il y avait la tête. Et donc celui qui construit les flashballs peut attester et tout le monde repart avec un non-lieu. Donc voilà. Après, il y a toute l'histoire des tasers, des drones. C'est un marché monstrueux, quoi, notamment avec un truc qui développe un peu sur l'immigration clandestine. Et là, tout ce qui est technique de fichage, de contrôle, de surveillance des frontières, tout ce qui est drones, navires, hélicos, infrastructures électroniques, traçage biométrique, tout ça, c'est au niveau de l'Europe, c'est des dizaines de millions d'euros, quoi. C'est juste délirant, quoi. Et c'est des trucs en plus, il y a des. C'est des trucs qui datent en plus pas d'hier, quoi, parce que à partir du moment où la France a soi-disant donné leur autonomie aux colonies, en fait, il y a vraiment des structures, par exemple, qui s'appelaient. Enfin, les premières, ça s'appelait les postes de liaison et de renseignement, les PLR. Et en fait, c'était un intermédiaire pour que l'État français, en fait, ait encore la main sur. La main ou en tout cas collabore à la gestion et à l'encadrement en fait des polices des anciennes colonies. Et ça évidemment quand tu as ce lien là quand tu vas former par exemple des cadres que ce soit des anciennes colonies ou des cadres étrangers, par exemple la police de Moubarak, c'est par exemple en 2010. Il y a plusieurs cadres de la police de Moubarak qui ont été encadrés et voilà, drivés un peu par les Français. Directement dans le package, en fait, tu as des contrats d'armement. Et là, par exemple, pour cet exemple-là de Moubarak en 2010, il y a un contrat de 71 millions d'euros d'armement qui a été signé, quoi. Donc c'est vraiment des packs, quoi, tout fourni, la main d'œuvre bien encadrée, quoi, et le matériel qui va avec, et tout le monde repart content, quoi. Voilà, par exemple. Je pourrais continuer les exemples, hein. On a fait à peu près le même genre de saloperie par exemple en 2008, quoi. Il y avait des émeutes au Tibet. Et deux mois après la répression sanguinaire de la Chine, quoi, il y a tout un tas de cadres chinois aussi, pareil, qui ont été encadrés, quoi, par la police française pour leur apprendre la bonne façon de faire du maintien de l'ordre. Donc voilà, et puis donc apparemment les Chinois étaient très contents et désiraient une coopération soutenue dans l'avenir avec la police française. Parce que aussi, c'est un truc aussi que j'ai oublié de dire, quoi, c'est que la France est reconnue pour son excellence entre guillemets, évidemment, dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que généralement il y a assez peu de morts. Voilà, même s'il y a plein de blessés, il y a assez peu de morts, et que dès qu'un État veut se présenter comme démocratique, c'est quand même plutôt intéressant, quoi. On a d'abord exporté les techniques de contre-insurrection un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud, pour savoir comment torturer, comment tuer les gens, comment faire des rafles, faire disparaître les opposants.
Toutes ces techniques étaient inspirées de la guerre d'Algérie.
Complètement, ouais, tout à fait. Et là, maintenant, en fait, on exporte du maintien de l'ordre, quoi. Donc, c'est une bonne, une gentille petite tradition française, quoi, qui permet aux industriels de s'en mettre plein les fouilles.
Et de contrôler la main-d'œuvre.
Et évidemment, de contrôler la main-d'œuvre.
La meilleure des polices ne porte pas l'uniforme. incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, doux, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu payes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Pas vraiment sur l'histoire de la BAC, mais sur en fait l'essor de la BAC ou l'essor de ce que Rick Gust il appelle les polices de choc. En fait, il explique que la BAC, ils sont en tout cas au départ avant tout chargés de la petite et moyenne délinquance. On dit brigade anticriminalité, mais déjà c'est faux dans les termes, puisqu'ils s'occupent, enfin, je dirais, ils s'occupent quasiment jamais de crimes, quoi. C'est des mecs qui sont là juste pour emmerder tous les petits illégalismes des classes populaires, quoi, les petits trafics, les petites débrouilles, les ci, les ça, enfin, ça c'est eux, quoi. Et en fait, ils ont par exemple une particularité, c'est qu'ils ont, ils disposent des capacités judiciaires, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'intervenir dans leur propre chef. Et ça, c'est un truc qui intéresse particulièrement, parce que ça permet de faire du chiffre. En fait, on dit aussi que c'est une police proactive, c'est-à-dire qu'elle va générer elle-même les problèmes qu'elle est amenée à résoudre. Donc, ils créent les problèmes puis les résolvent. Donc, en gros, c'est comme ça qu'ils font du chiffre et que ça intéresse les dirigeants politiques, à la fois pour montrer qu'il y a de plus en plus de délinquance, où donc la France a peur, ayez peur, ne vous occupez pas des autres problèmes, la délinquance est le seul problème. Et puis en même temps montrer qu'on s'en occupe, puisque la BAC justement est là pour s'occuper de vous. Et regardez, bien qu'il y ait une explosion de la délinquance, il y a aussi évidemment une explosion du nombre de personnes incarcérées dont la justice s'occupe. Donc ces mecs-là, en fait, ils sont spécialisés dans la politique du chiffre. Au départ, en fait, la BAC, elle est élaborée, ça je ne l'ai pas exactement dit, mais donc ouais, c'était en 71, mais elle est élaborée par Raymond Marcellin, qui est ministre de l'Intérieur de l'après 68, notamment pour soumettre tous les processus révolutionnaires, quoi, pour aller faire une espèce de police de choc, quoi, pour calmer tous les petits révolutionnaires, tous les réfractaires à l'ordre établi, quoi. Après, la BAC, elle pose des problèmes parce qu'elle est, elle pose des problèmes en fait, à l'intérieur de la police, à l'intérieur de la hiérarchie judiciaire, parce que justement, elle est difficile à contrôler. Du fait, justement, de son autonomie judiciaire. Enfin, pas autonomie complète, mais en partie. Et en fait, l'abolition de la BAC, c'est revenu plusieurs fois sur le tapis dans les années 70. Notamment, en fait, au début des années 80, il y avait un cas qui avait été particulièrement médiatisé. C'était en fait un policier de la brigade spéciale de nuit de Nice qui s'était pris 5 balles par des baqueux parce que ce mec-là était en planque, en fait, voilà, et puis donc il y a une brigade de la BAC qui passe, qui trouve son, évidemment, il voit des suspects partout, donc un mec tout seul dans une bagnole, c'est forcément un suspect, donc ils arrivent, ils doivent pas arriver avec une petite fleur à la main, donc ils font peur à leurs collègues, le collègue sort le calibre et se prend 5 balles dans le buffet, quoi. Donc ils avaient tiré sur un collègue. Apparemment, il y a 2-3 histoires comme ça dans le bouquin. C'est pas la première fois que ça arrive, mais là, apparemment, ça avait fait du bruit. Et donc, on avait décidé de reparler, quoi, de la dissolution de la BAC, quoi. Et en fait, il y a même, c'était même un syndicat de police, j'arrive plus à me rappeler duquel, quoi, mais qui était plutôt pour... Et puis en fait, le problème, c'est qu'ils ont de tellement bons chiffres de productivité, ça intéresse tellement les politiques et les petits commissaires qu'ils n'ont jamais été remis en cause. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un commissaire veut monter dans les échelons et qu'il est responsable d'une équipe de la BAC, et bien l'équipe de la BAC, c'est celle qui produit le chiffre. C'est celle qui montre que le commissaire a une équipe qui a un bon rendement. Donc, tu peux pas te retourner contre l'équipe en fait qui assure la promotion de ta carrière. Et c'est comme ça en fait qu'ils sont tout le temps couverts, quoi qu'ils fassent, même quand ils tuent quelqu'un. Et ils ont un autre avantage qui est pas du tout négligeable, parce qu'ils ont un avantage pour les politiques, mais aussi un gros avantage pour les industriels, c'est que c'est des brigades en fait aussi qui s'enorgueillissent d'avoir toujours le matériel de pointe. C'est des gros...